top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Un lundi à 9h41 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Un gros producteur de télévision qui concocte du parent mode d'emploi et du 7 à 8 sur TF1 lance des toutes petites vidéos d'infos uniquement à destination des réseaux sociaux. Or, c'est précisément la bataille de l'année. Une dizaine d'acteurs vont s'écharper bientôt sur ce nouveau marché qui vise les très jeunes. Ceux, comment vous expliquer, ceux qui n'en ont rien à cirer de savoir si ce qu'ils regardent sur Facebook a été fabriqué par un média ou par un gosse de 14 ans dans sa chambre à coucher. Ceux qui ne se sont jamais assis sur un canapé en famille pour regarder la télé. Seulement voilà, ces jeunes-là, ils sont comme tout le monde, ils vont vieillir. Et plus ils avanceront en âge, plus la télé risque de mourir.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Emmanuel Chin.
Bonjour Sonia.
Voilà, pour le grand public, vous êtes encore le visage de Capital, lancé il y a 20 ans. Entre-temps, votre carrière a largement évolué. On va en parler et voilà comment on va procéder ce matin, un petit peu différemment des autres émissions. Je vais vous donner une télécommande, Emmanuel Chin. Parce que voilà, vous produisez l'émission du dimanche la plus regardée, 7 à 8 sur TF1, 25% de part de marché. Ouh, on va en reparler. Mais Emmanuel Chin, forcément, il adore zapper, il adore aller voir ce qui se passe à la concurrence. Alors hier, Emmanuel Chin, il a commencé par France 2. François Hollande choisit le canapé rouge de Michel Drucker pour son premier plateau télé post-Élysée.
Je ne suis pas rentré parce que je considérais que c'était pas ma place, c'était celle des soignants, déjà des la protection civile, d'aller chercher les victimes. Mais j'ai été à la porte du Bataclan. J'ai vu sortir des femmes, des hommes à gare. J'ai vu la détresse. J'ai vu la peur. J'ai vu aussi le soulagement.
Vous auriez été président de la République, votre premier plateau post-Élysée. Vous l'auriez fait chez Michel Drucker, Emmanuel Chin ?
Non, je l'aurais fait dans le portrait de 7 à 8 chez de Maizière.
C'est ça. Non, mais à part ça, c'est pas un risque de se pépériser ? Ou au contraire, c'est le choix d'une télé populaire d'être le président de tous les Français ?
Oh, c'est le choix d'une télé populaire. Après, c'est le choix. Moi, j'ai pas commenté le choix du président de la République, de l'ancien président de la République. Je crois qu'il y a un lien aussi avec Michel Drucker. Mmh. Michel Drucker, c'est la télévision. Mmh. Donc, mais j'aurais choisi peut-être le portrait de 7 à 8, encore que, voilà, ce qui était important, c'est de pouvoir s'exprimer, raconter ce vécu. Je pense que quand on vit ces événements, dont nous fait, c'est bon aujourd'hui, le deuxième anniversaire, ça change un homme. Donc, ça semblait fort.
Ça voulait dire que de Maizière avait proposé aussi à François Hollande d'être son invité ?
De Maizière propose toujours
tout, à tout, le
tout
monde.
Ce qui est événementiel et tout ce qui peut l'être.
Emmanuel Chin continuait hier de zapper sur C8, cette fois chez Thierry Ardisson, les Terriens du dimanche. Raquel Garrido a fait couler tant d'encre depuis sa nouvelle vie de chroniqueuse télé.
Ça veut dire que dans Salut les Terriens du samedi, on ne peut plus recevoir de gens de la France insoumise parce qu'on nous dit « Votre quota est explosé avec Raquel Garrido ».
Voilà, et du coup le CSA m'a dit que la seule façon d'arrêter de me compter, c'est que j'arrête totalement mes activités politiques et mon engagement.
C'est terrible.
J'ai réfléchi, j'ai pesé, j'ai pondéré.
Suspense.
Et j'ai décidé d'arrêter.
Voilà, le CSA nous a bien précisé ce matin que le CSA n'a jamais rien demandé à Raquel Garrido, ni à Thierry Ardisson, ni à C8.
Ça paraît évident. Ça paraît évident que le CSA n'a rien demandé.
Mmh. Sinon, c'est de l'ingérence dans les programmes.
Bah oui, oui. Non, mais c'est un habillage. C'est un choix qu'elle a fait.
Voilà. Ouais.
Chacun fait son choix. On préfère faire animatrice à la télévision chroniqueuse que faire la politique.
Et c'est le meilleur des calculs d'un point de vue politique, à votre avis ?
Oh, j'en ai aucune idée. Franchement, ça. Alors,
c'est parfait. On est chroniqueuse télé. On peut faire tous les coups d'éclat qu'on veut. On peut parler le temps qu'on veut et pendant ce temps-là, on tire à la télévision pour son parti, c'est-à-dire la France insoumise, sans que ça vous soit ni reproché ni imputé.
Non, mais je pense que, et ça c'est la responsabilité du producteur, c'est mm-hmm. d'avoir sur son plateau un équilibre, parce qu'il y a malgré tout des équilibres de temps de parole et d'opinion.
Ouais.
Donc c'est là où il faut en tenir compte. Donc ça c'est la responsabilité du producteur. Et je pense que de ce point de vue-là, enfin j'espère que Thierry Ardisson et sa productrice ou son producteur sauront avoir une diversité d'opinion. Ouais. Ça c'est une responsabilité du média.
C'est une responsabilité du média, mais pour ces anciens politiques ou pour ces politiques qui ne sont jamais loin de la sphère politique et qui se sont reconvertis massivement cette année au micro, vous les voyez comment vous, Emmanuel Chin ?
Ben, j'ai le sentiment qu'il y a tout un monde politique qui s'est vaporisé, qui s'est dissous. Et donc, il y a beaucoup d'anciens politiques qui...
Arcasés.
Et le média, ben, ça attire. Ils aimaient être dans la lumière, ils aimaient exprimer des opinions. Et donc, aujourd'hui, ils vont dans les médias plutôt que de faire de la politique, là où peut-être... ils étaient un petit peu dépassés, je ne sais pas, en tout cas les électeurs en ont jugé à l'époque.
Puisque les chaînes s'acharnent à vouloir déboulonner son 7 à 8 sur TF1, Emmanuel Chahan redemande, il a regardé le 19h de Laurent Delahousse.
Cela fait maintenant 10 ans que je vous retrouve chaque week-end sur France 2. Je vous propose désormais un nouveau rendez-vous. Dès 19h, 2 heures de grand direct, nos reportages, nos éclaireurs et puis chaque semaine un grand témoin face à l'actualité des 7 derniers jours. À 20h, le journal bien sûr et dès 20h30, une grande personnalité nous dévoilera son histoire française.
C'était l'une des rares nouveautés un peu ambitieuses, un peu créatives de cette rentrée. 7 à 8 en face, finalement, on ressort largement gagnant. Qu'est-ce qui ne va pas dans le programme de Delahousse ?
J'ai beaucoup d'estime pour Laurent. Mmh. Je pense que l'offre de 7 à 8, qui est une offre de reportage varié, qui raconte le monde, qui raconte la société avec des histoires, des stories, et qui donne la place aux histoires, aux immersions, et ce que les téléspectateurs ont envie de voir. 7 à 8, ça fait 18 ans que cette émission existe. Elle continue à être très puissamment leader, avec entre 25 et 28% de part de
marché.
Et elle
a très peu évolué. C'est à se demander même si, à vos yeux, la télé n'est pas une vieille dame qu'il faudrait pas trop bousculer.
Mais elle a évolué quand même, parce que là, le mix... qui est d'avoir des grandes immersions, des grandes histoires internationales. Hier, on a fait découvrir Abu Dhabi, le Louvre. On était dans un lycée d'élite à Louis le Grand, des faits divers. Et en même temps, parce que nous avons avant 7 à 8, maintenant 7 à 8 Life, qui est un programme avec des sujets très concernants, comme
mais
on
Laurent
dit,
Delahousse,
de société.
Mais Laurent Delahousse, lui, il voulait mélanger le magazine, il voulait mélanger l'info. C'est ce mélange-là qui ne marche pas ? Les gens sont perdus ?
Non, magazine et info, c'est la même chose. Je pense que... la formule de 7 à 8 est une formule plus riche, plus variée.
Impossible
plus...
de vous faire parler de la concurrence. Hein.
C'est pas ça, c'est que c'est qu'il a fait un autre choix qui est un choix d'inviter des gens en plateau. Et bon, qui est un choix différent, qui est un choix sans doute moins populaire. Nous, nous cherchons à faire quelque chose de, qui va toucher un large public avec une qualité. En même temps, c'est fantastique sur TF1 d'avoir des reportages qui vous emmènent dans tous les pays du monde. Quand on a lancé 7 à 8 à l'époque, des gens nous disaient « mais vous êtes fous sur TF1 de faire ça ». Et on a eu le soutien d'Étienne Moujotte qui nous a dit « non, les gens sont curieux, ils ont envie de comprendre le monde ». Donc si c'est fait avec de la qualité, si on raconte des bonnes histoires, on a embauché les meilleurs journalistes. Et là où 7 à 8 continue à être très fort, c'est qu'on a une rédaction avec les meilleurs. On essaye d'avoir les meilleurs.
L'année dernière, dans le genre tentative...
Et le portrait de Thierry de Mézières est un des moments les plus regardés.
L'année dernière, dans le genre tentative, un peu hybride, et qui s'est terminé par un flop, vous avez essayé Actuality, présenté par Thomas Touroute sur France 2. Oui. En quoi vous vous êtes trompé ?
Je pense qu'on a fait un programme qui n'était pas assez divertissant à cette heure-là. C'était la volonté que nous avons complètement partagée avec Vincent Mellet à l'époque, qui dirigeait France 2, d'avoir un programme de décryptage de l'info l'après-midi sur France 2. Quand Caroline Gott est arrivée, elle nous a dit qu'il faut que ça soit plus divertissant. Donc on a mis un peu plus de divertissement dans le plateau. Là, l'audience est montée. Mais ce n'était probablement pas... un bon horaire pour faire un talk à 18h sur France 2, où il y a un public plus adulte, on va dire. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des émissions de cuisine qui, semble-t-il, sont plus appropriées à cet horaire-là.
Alors, il n'y a pas d'émissions de cuisine. On est revenu à un jeu comme quoi la bonne vieille Madame Télé, il ne faut
en même
pas
temps,
trop la
bousculer. J'étais très fier d'Actuality. C'était vraiment bien produit. Je dis ça parce que Karim Nedjari, Thierry Bizot, qui travaillait sur l'émission, ont fait un boulot fantastique. Touroud est un animateur qui a beaucoup de talent, extrêmement sympathique. Et il y avait... études d'image qui étaient excellentes sur Actuality.
Dernier petit zapping, parce que dans le genre format qui n'a pas bougé depuis 20 ans, le dimanche à la télé, eh ben, il y a le vôtre, Emmanuel Chahan, et c'était capital sur M6. Et oui, où Emmanuel Chahan a inventé cette voix off inimitable que toutes les chaînes se sont échinées à copier.
Nous sommes au central du 15e arrondissement à Paris. Votre ligne, c'est ce fil qu'il suffit de brancher sur la fiche correspondant à votre numéro. L'opération prend 2 minutes.
41, 5, 33.
Votre ligne est ensuite reliée à des commutateurs, ces armoires électroniques qui orientent les appels vers les correspondants. Un travail qui mobilisait autrefois 700 opératrices.
un travail qui mobilisait autrefois 700 opératrices.
Vous imitez formidablement bien, mais, comme ma belle-fille d'ailleurs.
Mais tout le monde, c'est la quatrième saison de l'Instant M. Ça fait 4 ans que je rêve de poser la question directement à l'origine du mal, c'est-à-dire vous vous rendez compte du mal que vous avez fait à la télé en inventant ça?
Je suis désolé que tout le monde ensuite ait répété cette musique. C'est une musique qui, à l'époque, était très nouvelle et qui est venue très spontanément. Il n'y avait aucun calcul. J'étais dans les salles de montage et j'avais envie de raconter, de décrypter l'économie de marché. Et je pense que c'était très nouveau.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a une certaine répétition.
Sans
peut-être.
Blague.
Mais
vous
je vous rassure,
vous 700 opératrices.
700 opératrices.
C'est très bien.
Mais je peux vous rassurer, il y a beaucoup d'autres programmes à la télévision qui ont inventé aussi d'autres écritures. Et voilà, et c'est un perpétuel recommencement.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Emmanuel Chat, invité de l'Instant M, lance Monkey, production de vidéos qui décortique l'info à destination des réseaux sociaux ou l'histoire d'un producteur télé qui montre qu'on va bientôt, ou peut-être pas, on va voir, se passer de la télé.
Quand Nicolas Hulot a annoncé son intention de sortir progressivement de la dépendance au glyphosate, certains agriculteurs ont pris peur.
Je suis pas un dogmatique et je suis pas là pour emmerder l'agriculture.
Il semble bien en tout cas.
Selon eux, l'interdiction de cet herbicide nuira à leur productivité. La France sera obligée d'importer plus de légumes de l'étranger, là où les conditions phytosanitaires sont souvent bien pires que les nôtres. Bref, c'est pas demain la veille que Monsanto et le Roundup disparaîtront.
Voilà, Monkey lancé discrètement sur les réseaux sociaux. Vous allez vous les trouver évidemment, ces vidéos sur Facebook, sur Twitter, etc. etc.
Et sur YouTube.
Et sur YouTube. Une vidéo par jour, en moyenne.
Une vidéo par jour, c'est un choix assumé de n'en faire qu'une, en 3 minutes, pour décrypter un sujet de l'actualité où on allie la rigueur journalistique et le travail de fond avec un ton très ludique et l'écriture des réseaux sociaux. C'est de la vidéo. Aujourd'hui, moi, je pense que la qualité de production vidéo, elle est à la télé. Elle n'est pas sur Internet.
Ouais.
Et donc, tout le pari, c'est d'amener cette qualité de production de télé et de vidéo que nous avons chez Elephant et chez d'autres producteurs aussi, sur les réseaux sociaux, avec les codes d'écriture des millennials, c'est-à-dire cette génération de 20 à 30 ans, 20, 35 ans, 25, 15, 35 ans, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Alors, vous avez été précédé par Brut, par exemple, qui mitraille beaucoup plus de vidéos postées que vous par jour. Des vidéos plus courtes aussi, vous visez 3 minutes. Et la différence surtout, c'est que vous identifiez, vous incarnez, vous personnifiez ces vidéos. Il y a un journaliste
absolument
à l'écran. Est-ce qu'il y a un journaliste à l'écran parce qu'il y a une volonté d'identifier l'info par rapport à tous les montages lambda qui circulent et qui se baladent sur le web?
Oui, il y a une volonté d'incarnation, il y a une volonté de repère, de crédibilité.
C'est ça.
À l'heure des fake news, si vous voulez, qui parfois polluent les grands réseaux sociaux et qui peuvent influencer parfois des élections démocratiques, nous faisons le pari que ces réseaux, ces grands réseaux sociaux, privilégieront des médias où il y aura une crédibilité d'information. Et donc nous incarnons ces vidéos avec des journalistes, avec en même temps un ton très ludique. Et il y a ce mélange.
Vous faites le pari que les grands réseaux sociaux
valoriseront ça, oui. J'en suis certain.
Ce que vous êtes en train de nous raconter, Emmanuel Chin, c'est que très bientôt, parce que vous allez être très nombreux à vous lancer sur ce marché-là, tout ce qui va nous arriver comme contenu d'info est entièrement dépendant de la bonne volonté de Facebook, de Google, de Twitter, sur lesquels vous ne pesez rien, avec lesquels vous ne pouvez avoir aucun dialogue, ni aucune espèce de discussion, contrairement aux discussions que vous pouvez avoir avec TF1 quand vous leur vendez un programme.
Ce sont des discussions différentes, mais je suis absolument certain que Facebook, aujourd'hui pour prendre l'exemple de Facebook, valorisera des contenus de qualité. Vous avez remarqué il y a quelques jours que Mark Zuckerberg a multiplié par 2 le nombre de modérateurs sur Facebook. Ils sont passés de 10 000 à 20 000. Parce que ces grands réseaux sociaux sont convaincus qu'aujourd'hui la qualité des contenus qui seront diffusés sur ces réseaux sociaux fera la différence. Donc ils sauront valoriser les médias de qualité. Nous avons
mais
fait le pari.
C'est un pari total parce que vous n'avez aucune visibilité sur l'algorithme.
Quand j'ai lancé Capital, personne ne croyait à l'économie à la télévision. Moi, j'ai fait le pari qu'on pouvait intéresser un public très large autour de l'économie en racontant des histoires, en expliquant l'envers du décor, en décryptant ces millennials, ces jeunes générations. Certes, ils aiment l'info LOL divertissante et c'est formidable, mais ils sont aussi extraordinairement curieux, prêts à s'engager. Ils ont envie de comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Alors,
ils ont envie de lui donner du sens.
On est d'accord.
Et ce que je peux vous dire, c'est que ces vidéos que nous avons lancées en toute discrétion depuis un mois et demi, 2 mois, parce que nous les testons. Donc, nous avons préféré faire avant de faire savoir. Eh bien, ces vidéos, il y a déjà une communauté de 10 000 fans, 2 millions de vidéos vues, et surtout, elles sont regardées du début à la fin. On nous avait dit au début, 3 minutes, c'est trop long. Eh bien, les millennials qui les regardent du début à la fin, parce que c'est fait, c'est rythmé, c'est bien écrit, et on apprend des choses.
Vous les avez appelés Monkey,
parce que manifestement, vous l'aimez bien les bébêtes, puisque votre maison de production s'appelle Éléphant. Donc peut-être qu'un jour, si vous lancez un journal papier, ça s'appellera Canard. Donc voilà, comme ça, on aura tout le monde.
Il est déjà lancé.
Il est déjà lancé.
C'est sympa, c'est agile, oui. Comme cette communauté, c'est malin, on dit malin comme un singe.
Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Chin, que finalement, vous vous adressez à une population qui n'en aura bientôt plus rien à cirer de savoir quel média aura produit quoi ? C'est-à-dire que quand ils verront une vidéo, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de savoir que ça vienne de chez France Inter, de TF1, de Mediapart, du Washington Post ou, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un ado de 14 ans qui aura fabriqué sa vidéo dans sa chambre ?
Oui et non, parce que les grands médias, comme France Inter, comme le Washington Post, comme Le Monde ou comme d'autres, ou en télévision aussi, comme TF1, France 2, etc., ont une valeur, une crédibilité. Et je pense je pense qu'ils continueront à avoir une valeur s'ils savent déployer aussi ces contenus sur le numérique et sur les plateformes qu'ils vont créer. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la valeur du média, la valeur de l'émetteur est importante. Et nous, avec Éléphant, où il y a un savoir-faire éditorial important, c'est une société importante avec beaucoup de journalistes, des scénaristes, des auteurs, on fait beaucoup de fiction, de graphistes, de documentaires, des réalisateurs. Nous avons toujours fait le pari du contenu, d'un contenu de qualité. Et avec Monkey, nous faisons le pari que, parce qu'il y aura une valeur d'information et de crédibilité du média, l'enjeu, c'est de faire de Monkey la marque premium de l'info de décryptage quotidienne en 3 minutes.
Vous n'êtes pas tout seul, hein, parce qu'il y a AJ+, le format vidéo d'Al Jazeera qui arrive en France. Il y a Black Pills qui fait déjà beaucoup en documentaire vidéo qui arrive.
Mais bien sûr, mais nous sommes sur un positionnement très clair.
Il y a Loopsider, il y a Brut, il y a Combini, il y a TF1 One, puisque vous parliez, etc. Vous donnez combien d'années de survie à la télé, Emmanuel Chin ? Vraiment combien d'années ? Parce que là, vous parlez aux moins de 35 ans. Attention, les moins de 35 ans, dans 15 ans, ils ont 50 ans, c'est-à-dire qu'ils ont l'âge des gens qui regardent le 20h de TF1.
Oui, les moins de 35 ans, en même temps, ils regardent, fait pas ci, fait pas ça, part en mode d'emploi, ils regardent 7 à 8, ils regardent des grands événements. La télé continue à avoir une puissance forte. Aujourd'hui...
Combien de temps ?
Je pense encore quelques temps. Oui, encore quelques temps. Allez, 15, 20 ans...
C'est ça.
Mais elle est en migration. Mais après, elle s'exprimera autrement. Ouais. Mais même plus, probablement, si vous voulez. Parce que je crois qu'on a besoin... Il y a une chose fantastique à la télévision, c'est que vous partagez au même moment le même programme. Et ça, dans l'inconscient collectif, c'est très fort. Regardez, vous avez un film, vous avez chez vous un DVD. Maintenant, il n'y a plus tellement de DVD, on les fait en VOD. Non, mais par exemple, Les Visiteurs, vous n'allez pas forcément le regarder. Le soir où ça passe sur TF1, vous le regarderez. Les chaînes de télévision continuent à faire des audiences puissantes. Hier, il y avait 4 600 000 personnes qui regardaient 7 à 8. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur des grands événements, la semaine dernière, le Tueur du Lac, 6 millions plus les replays qui vont être importants. Donc aujourd'hui, les contenus sur ces grandes chaînes de télévision, ces grands réseaux, continueront à être puissants. À nous, producteurs aussi, d'intéresser un jeune public. Quand on regarde Fais pas ci, fais pas ça, ça intéresse les jeunes. Dans un genre différent, complètement différent. Regardez Hanouna sur C8, il touche les jeunes qui vont aussi sur les réseaux sociaux. Donc la télévision peut continuer à toucher des publics très larges s'il y a de la qualité. Et c'est ce que nous cherchons à faire.
Rendez-vous dans 15 ans, Emmanuel Chin. En attendant, allez voir Monkey et dites-nous ce que vous en pensez.